RJB Info, le journal Natacha Mengoli, bonsoir.
Bonsoir. La justice a tranché dans l'affaire d'escroquerie qui occupait le tribunal de Moutier depuis hier. Les deux ressortissants camerounais ont été reconnus coupables en fin d'après-midi. L'un d'eux écope d'une peine ferme. Son comparse s'en sort avec du sursis. Récit d'audience dans un instant. Les affaires sociales changent d'écrin à Bienne. Le département et ses 160 employés se sont installés dans des nouveaux locaux en début du mois. Le nouvel agencement des lieux doit permettre de faciliter les échanges entre les demandeurs et les assistants sociaux. Les élus romands n'ont pas réussi à sauver la valeur locative. Le Conseil des États a voté sa suppression aujourd'hui. Ce n'est qu'une première étape puisque le Conseil national devra se prononcer dans quelques mois. Éclairage avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin, d'ici quelques minutes. Et du côté du ciel, il s'annonce bien ensoleillé pour demain. Une fois les grisailles du matin dissipées, il faudra aussi compter avec des voiles d'altitude assez nombreux dans l'après-midi. Le tout sous une bise faible à modérée, maximum 17 à 19 degrés. Ils sont reconnus coupables d'escroquerie. Les deux ressortissants camerounais qui comparaissaient depuis hier devant le tribunal de Moutier ont bien arnaqué un commerçant de la région. Une arnaque de type wash-wash, c'est-à-dire une prétendue multiplication de billets de banque par des procédés chimiques. Et selon la justice, la victime ne peut pas s'en vouloir. Olivier Zano.
C'est bien ça le principal enseignement de cette affaire. On aurait pu penser que la victime, un commerçant de la région, aurait dû sentir l'arnaque, une forme de co-responsabilité en quelque sorte. Eh bien non, selon la juge unique Maïli Rufnacht, le lésé ne pouvait simplement rien faire. Les mailles de cette arnaque, un tissu de mensonges et de manipulations très fines, étaient beaucoup trop serrées. On le rappelle, l'un des prévenus avait approché la victime pour lui faire croire qu'elle était intéressée à racheter une partie de son affaire. Un cadeau du ciel à en croire ce commerçant qui cherchait justement un repreneur. Et puis au fil des semaines, la manipulation a opéré. Plusieurs intermédiaires se sont succédés pour présenter un procédé de paiement basé sur une coloration de billets de banque soi-disant légale, avec démonstration à l'appui. La victime a avancé environ 60 000 francs. On a encore essayé de lui extorquer de l'argent pour l'achat de produits chimiques censés réparer un problème survenu pendant les opérations. Et c'est là qu'elle a alerté la police. Le tribunal n'a pas été tendre avec les auteurs, des auteurs coutumiers de ce genre d'arnaque et qui n'ont cessé de nier des faits accablants. L'un d'eux écope de 16 mois de prison ferme pour escroquerie et blanchiment d'argent, avec en prime une expulsion du territoire suisse pour 5 ans. Le second s'en tire avec 10 mois de prison assorti d'un sursis de 2 ans.
Et les frais de justice sont évidemment à la charge des prévenus. Ils devront également rembourser à la victime l'argent qui lui a été extorqué. Le département des affaires sociales fait peau neuve à Bienne. Les 160 collaborateurs et collaboratrices ont pris leur quartier au début septembre dans les nouveaux locaux du département. Depuis la semaine dernière, ce sont les demandeurs de l'aide sociale qui découvrent à leur tour ce nouveau lieu. Pour la direction de l'action sociale et de la santé, ce déménagement doit permettre de faciliter les relations entre les demandeurs et les assistants sociaux. Le responsable du département des affaires sociales, Thomas Michel.
L'entrée, ça change complètement. Hein. On peut se bouger dans le bâtiment soi-même. Il ne faut pas demander pour tout. On n'est plus autonome. Et ça, c'est une chose assez importante pour se sentir dans un sens que je peux faire moi-même quelque chose. Hein. Je ne suis pas une personne arrangée, mais je suis une personne qui peut se bouger soi-même. Ça, c'est la chose la plus importante. Et puis, il y a des choses comme de la lumière, comme un peu de couleur, et le sentiment d'être dans un bâtiment où il y a où on se sent dans un système professionnel et pas dans un système bricolage. C'est peut-être ça qui change aussi.
Le département espère ainsi pouvoir gérer le flux des demandes à l'aide sociale qui devrait arriver l'année prochaine avec la fin de l'assurance chômage et tourner le dos au fil d'attente dans la rue devant le service social. La fête de la solidarité s'invite cette année à l'école secondaire de Saint-Imier. La manifestation est organisée ce samedi en partenariat avec la Fédération interjurassienne de coopération. Elle a déjà été repoussée 2 fois, la faute au Covid évidemment. Mais ces longs mois d'attente ont été mis à profit par les enseignants et les élèves, lesquels ont travaillé sur de nombreuses thématiques à la découverte d'autres réalités et cultures. Le directeur de l'école secondaire de Saint-Imier nous parle de ces nombreuses activités. Domenico Di Paolo.
Alors, on a eu pas mal d'activités avec des associations qui sont venues présenter leur association aux élèves. Alors, pas tous les élèves ont fait toutes les activités, simplement on a beaucoup d'activités diverses qui ont été proposées, que ce soit au niveau culinaire, que ce soit au niveau fabrication, travaux manuels, couture, que ce soit au niveau chant, que ce soit au niveau français, avec des contes africains par exemple. Nous avons également sensibilisé nos jeunes au développement de projets, à l'évaluation d'un projet, donc voir les critères, au volontourisme par exemple. Ce sont tous des éléments qui ont été importants. Et puis, certains de nos élèves ont été particulièrement sensibilisés par les thématiques, notamment une classe a fait une vente particulière de pâtisserie pour subventionner ou aider à participer à la construction de sanitaires à Madagascar.
La fête de la solidarité aura donc lieu ce samedi à l'école secondaire de Saint-Imier. Une cinquantaine d'activités seront proposées dès 10h et jusqu'à 20h. Notez qu'il sera obligatoire de présenter un certificat Covid. Le nombre de cas de coronavirus stagne à un niveau élevé dans le canton de Berne. La direction de la santé a fait un point de situation cet après-midi. Elle indique dans son communiqué que le canton compte actuellement 1945 malades. 89 personnes sont hospitalisées, dont près de 90% ne sont pas vaccinées. Les soins intensifs des hôpitaux bernois accueillent en ce moment même 30 malades, dont 24 sous respirateur. Et niveau vaccination, les autorités bernoises indiquent que 61,2% des habitants du canton bénéficient désormais d'une couverture vaccinale complète. Et le verdict est tombé dans l'affaire de l'enseignante qui avait bâillonné un jeune élève. Le tribunal de police à Boudry, dans le canton de Neuchâtel, a prononcé son acquittement ce matin. La plupart des autres accusations n'ont pas été retenues et cet épisode ne suffit pas à lui seul à prononcer une condamnation sur le plan pénal, selon la juge. Les précisions de Sonia Bernauer-Mia.
Un comportement inadéquat mais pas pénalement répréhensible, c'est le raisonnement qui a conduit le tribunal de police à acquitter cette enseignante de 42 ans ce matin. Cette femme en charge d'enfants de 4 à 6 ans avait admis avoir posé un foulard sur la bouche de l'un de ses élèves, mais réfutait les autres accusations émanant d'une fillette dont la mère a porté l'affaire devant la justice. Les faits remontent aux années 2015-2017, mais la plainte n'a été déposée qu'en septembre 2020. La fille de la plaignante dit avoir été attachée à un banc, bâillonné et laissé isolé sans surveillance. Pour le tribunal, les interrogatoires des parents et élèves présents à cette époque ne corroborent pas ces dires. Seul l'épisode du garçon bâillonné revient dans les différentes déclarations. Pour la juge, la direction scolaire a pris les mesures nécessaires au moment des faits en transférant l'enseignante dans un autre collège après avoir reçu plusieurs plaintes de parents. Le seul épisode du foulard ne permet pas de retenir les accusations de contrainte et de violation du devoir d'assistance, selon le tribunal. L'enseignante est donc blanchie. Sur le plan administratif, elle a été suspendue de ses fonctions en juin en lien avec cette affaire.
Et les deux parties se laissent le temps de la réflexion en vue d'un éventuel appel. Les exportations horlogères du mois d'août retrouvent peu à peu leur valeur financière d'avant-crise. La Fédération du secteur a partagé ce matin ses nouvelles statistiques mensuelles. Les chiffres comparent le mois d'août 2021 à celui de 2019. Si la valeur des exportations se porte plutôt bien, le nombre de pièces vendeurs à l'étranger a bien baissé. Les premiers pays acheteurs restent en bonne position, mais certains pays arabes sont de plus en plus demandeurs. Les détails de Valentine Courvaya.
Les exportations de montres suisses ont totalisé 1,5 milliard de francs durant le mois d'août. C'est presque autant qu'en août 2019, avant la crise sanitaire. Mais le nombre de montres vendues a diminué de 29,7% sur ces deux dernières années. Seules les montres de luxe ont connu une augmentation des ventes. À l'inverse, celles à petit prix ont même connu un recul de 45%. Du côté des acheteurs, la Chine et les États-Unis restent les plus gros clients avec près de 30% du marché. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont gagné en importance ces deux dernières années. À l'inverse, d'autres débouchés comme la France, Hong Kong ou encore la Corée du Sud se sont affaiblis. En résumé, si la valeur des exportations se rapproche de celle de 2019, le nombre de montres vendues reste encore bien plus bas qu'il y a deux ans, sauf pour les montres de luxe.
Malgré ces chiffres, certains groupes horlogers ont vécu des reculs ces dernières semaines. C'est le cas notamment de Swatch qui vient de quitter le SMI, l'indice boursier regroupant les 20 plus grosses entreprises suisses cotées en bourse, pour rejoindre l'indice boursier d'en dessous. Le Conseil des États a voté la suppression de la valeur locative malgré l'opposition de la grande majorité des élus romands. Ce n'est qu'un premier pas. Le Conseil national devra se prononcer encore dans quelques mois. Et rien n'indique pour le moment que cette réforme ira bien à son terme. La majorité alémanique du Conseil des États a pourtant décidé de conserver la valeur locative pour les résidences secondaires. Les explications à Berne de Serge Jubin.
Deux arguments forts développés par la majorité qui veut abolir la valeur locative et en parallèle supprimer les déductions fiscales pour les travaux d'entretien et la déduction des intérêts hypothécaires. Les personnes qui arrivent à la retraite et ont payé leur bien immobilier sont frappées d'un impôt sans fondement et les Suisses sont trop endettés. Le système de la déduction fiscale des intérêts hypothécaires est un système qui subventionne l'endettement. La majorité bourgeoise alémanique du Conseil des États s'est heurtée à la gauche qui estime que la réforme proposée est déséquilibrée et qu'elle n'a aucune chance si elle doit aller devant le peuple, le socialiste Christian Levrat.
Je partage l'analyse qui veut qu'il s'agisse d'un bricolage législatif à force de pression des différents lobbies qui sont impliqués ici. Je considère que le projet n'a absolument aucune chance politique et qu'il serait sain de l'interrompre. 21 cantons se sont opposés à cette modification. Pour au moins 42 d'entre vous, vous êtes confrontés à une situation dans laquelle votre canton que vous représentez ici vous demande de ne pas entrer en matière sur ce projet.
Les conseillers aux États des cantons romands ont plutôt bien écouté leur gouvernement. 9 élus romands ont rejeté la réforme, 2 se sont abstenus. Ce sont les libéraux radicaux Joanna Gapani et Olivier Français. Et un seul sénateur roman a soutenu le principe de la suppression de la valeur locative. Le conseiller aux États libéral radical neuchâtois Philippe Bauer.
L'abolition de la valeur locative doit encore faire l'objet de débats au Conseil national. Le certificat Covid pourrait bien devenir obligatoire au Palais fédéral à Berne et ce à partir du 2 octobre. La commission des institutions politiques du Conseil des États a élaboré son projet en acceptant de modifier la loi sur le Parlement. Son homologue du Conseil national lui avait donné son feu vert la semaine passée. Le Parlement se prononcera encore la semaine prochaine. Un scrutin qui s'est déroulé sous une surveillance particulière en Russie. Le conseiller aux États socialistes jurassien Pierre-Alain Fridé s'est rendu dans le pays pour y observer les élections législatives ce week-end. Il était à la tête d'une délégation du Conseil de l'Europe, mais leur travail sur place a rencontré quelques difficultés. En raison de la pandémie de coronavirus, la Russie a demandé à ce que la délégation de surveillance soit fortement réduite. Ce sont finalement que 5 parlementaires qui se sont rendus sur place alors qu'ils auraient pu être plusieurs centaines. Les observateurs ont finalement procédé à une évaluation de la situation, faute d'avoir les moyens de réaliser une véritable observation du scrutin. Les explications de Pierre-Alain Fridé.
On était juste présents, donc dans peu de bureaux avec quelques parlementaires. Et on a plutôt voulu sentir l'ambiance générale, voir s'il y avait des tensions, s'il y avait des choses manifestement qui ne jouaient pas. Et ce qu'on a vu était, bon, dans la région de Moscou et à Moscou même, plutôt effectivement très calme, mais en aucune manière on ne peut maintenant, en sortant de là, exprimer une opinion claire sur la validité ou non de ces élections. Il faudrait des moyens beaucoup plus importants, bien entendu.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h14, tout pile.
Sport. Le FC Bienne veut offrir une expérience de football sûre à tous ses spectateurs. C'est en ce sens qu'il introduit le certificat Covid pour ses matchs à domicile. Le club de Promotion League en a fait état aujourd'hui. Chaque spectateur devra se munir d'un pass sanitaire pour accéder à la Tissot Arena dès demain et la partie face à la réserve du FC Bâle. Enfin, le HC Bienne veut s'accrocher à son fauteuil de leader. La troupe d'Antti Törmänen dispute un derby roman face à Genève ce soir. Coup d'envoi à 19h45 à la Tissot Arena. Les Célandais sont toujours invaincus après 6 matchs dans le championnat de National League de hockey sur glace. Premier du classement, ils veulent confirmer leur bonne forme actuelle devant leur public. HC Bienne Genève, c'est à vivre donc ce soir, tout à l'heure, en direct sur RJB dès 19h30. Merci pour votre écoute. L'actualité revient à 18h30 pour notre rappel des titres. Excellente soirée.